Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, une émission spéciale avec Aaron qui est notre invité et qui est aussi notre stagiaire pour une semaine sur Fréquence Mistral. Aaron qui vient de l'école de la deuxième chance, c'est comme ça qu'on dit. Bonjour Aaron.
Bonjour, merci Fréquence Mistral de m'avoir accueilli dans vos lieux.
Je suis ravi d'être ici. On voulait parler de la dyslexie.
Voilà, on va parler de ce problème. C'est quelque chose qui te touche particulièrement et depuis longtemps. On va mieux faire connaissance. Donc, tu as 17 ans, Aaron, et on nous a prévenu que pour un stage à la radio, à cause de la dyslexie, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Donc, on va voir avec toi plus en détail comment ça t'est arrivé, comment ça a été diagnostiqué et qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se manifeste, ça s'est manifesté.
Et on peut peut-être aussi préciser qu'il n'y a pas que la dyslexie, puisque comme on en parlait un petit peu en off juste avant, il y a plusieurs troubles 10. Enfin, toi, tu es concerné par plusieurs troubles 10 et tu disais qu'il y en a qui se combinent. Donc là, il n'y a pas uniquement la dyslexie, c'est bien ça?
C'est ça. Alors, moi, personnellement, je suis atteint de la diphonique, dyslexique et plein d'autres 10 qui sont connus, même inconnus. On m'a déclaré un DPH depuis tout enfant, depuis que je suis né. On m'a diagnostiqué à ma naissance. Jusqu'à l'âge de mes 6 à 5 ans, je ne pouvais pas parler français. Je parlais la langue des signes. C'est la diphonique, ça nous empêche de parler. Alors moi, je suis atteint des cas à peu près les plus graves, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vraiment lire ni écrire. Comme pour les mathématiques, tout ce qui est division, multiplication, j'ai trop du mal. Après, sur la lecture, c'est pas possible. C'est que j'ai tellement de dyslexie que, pour résumer, je vois les lettres bouger, rétrécir, disparaître, changer de place. Même au niveau des sons, je les entends pas très bien. J'entends des mots différents, on peut me parler, entendre un mot différent. Genre, on peut me parler de canard, je comprendrais un avion des fois, alors que c'est pas dans le même but du sujet. Et voilà, ça se règle grâce aux orthophonistes. Il y en a qui sont compétents, il y en a qui sont incompétents pour la dyslexie.
J'imagine que c'est un sacré handicap pour toi au quotidien. Comment tu le vis et quels ont été les exercices qui t'ont permis de... Est-ce que ça s'améliore?
Alors oui, les problèmes peuvent se régler au fil du temps. Je parle à cause de force, que j'ai 4 frères et 2 sœurs. Mes frères et sœurs ont réussi à régler plus ou moins leur dyslexie. On est touchés à peu près tous dans la famille. Il n'y en a qu'un qui a réussi à passer en douce. L'exercice que ben, moi je conseille, et tout ça, moi je suis fan, vous trouvez quelque chose que vous êtes fan, mais qu'il faut qu'il puisse être lecture. C'est-à-dire, imaginons, vous êtes fan de voiture, vous allez lire depuis quand elle a été créée, ceci, cela, une heure ou deux par jour. Beaucoup le disent, beaucoup les anciens le disent. Vaut mieux aller lire que rester sur le téléphone à l'écouter. Mais des fois, pour la dyslexie, vaut mieux l'écouter et le lire en même temps. Je prends l'exemple pour moi, j'adore les mangas, je suis fan de mangas.
Qu'est-ce que c'est?
C'est des animations. On peut parler de manga pour enfants et manga pour adultes. Alors, je parle pas de manga adulte parce qu'il y a des trucs cochons ou des trucs comme ça. Il y a vraiment deux thèmes différents dans les mangas. C'est les mangas pour enfants, c'est ceux qu'on peut laisser regarder aux enfants. Il n'y a pas trop de scènes dangereuses, mortelles et tout ce qui va avec. Mais des mangas comme, je vais prendre Berserk, où c'est que dedans, toutes les deux secondes, ça s'entretue, il y a du giclage de sang, plein de trucs monstrueux. On peut pas le faire lire à un enfant de 3, 4, 5 ans, 6 ans. C'est déconseillé. Mais Naruto, voilà, ça, c'est possible. Naruto.
Donc, les mangas en général, c'est, pour adultes, c'est assez violent.
Assez violent, assez romantique. En fait, en ce moment, ils disent beaucoup que les mangas, c'est dangereux pour la santé des jeunes. Mais je vais prendre des exemples tout bêtes. Il y a des mangas qui expliquent comment cuisiner. Il y a des mangas sur la nourriture qui est bien illustré. Lui qui a créé ce manga-là, il est professionnel cuistot. Il est 5 étoiles. Et il a mis tout son cœur à réaliser des beaux dessins avec des bonnes impressions, avec des vraies recettes mangeables qui sont vraiment délicieuses. Je n'ai pu goûter. J'en ai déjà fait une grâce à ce manga. Et on critique beaucoup parce qu'on dit que les mangas ou les jeux vidéo, ça abrutit les gens. Mais moi, tout ce que je trouve positif dans les jeux vidéo pour ma dyslexie et tout ce qui va avec, c'est que, je vais prendre un exemple, je prends un jeu assez connu mais pas trop non plus. On va prendre The Forest. The Forest est un jeu où c'est que, il y a une histoire et une aventure. Certes, ça, pour celui-là, il y a des trucs pas très jolis dedans, mais quand même, l'histoire est belle au fond. Ça parle d'un père qui s'est crashé en avion et que son fils a été enlevé par une tribu indigène. Et en fait, pour l'histoire, on va rechercher dans toute l'île savoir où ils sont et tout ça, et on se fait attaquer toutes les deux secondes par des indigènes. On découvre que dedans, il y a eu des expériences dans l'île. C'est pour ça que ces tribus sont comme ça. Mais c'est pas une tribu humaine, c'est une tribu qui a été créée génétiquement par des humains. Et dedans, on voit que l'enfant a été servi pour être réanimé à un autre enfant. Et comme ça, cet enfant est devenu un monstre mi-humain, mi-truc. Et le père, en sacrifice pour essayer de sauver son enfant, essaye de faire l'inverse. Ça marche, et c'est pour ça que maintenant il y a la suite, The Forest 2. Celle-là, c'est encore plus compliqué, j'ai pas pu y jouer encore. Mais l'histoire est touchante derrière, parce qu'on parle d'un père qui s'est sacrifié pendant 2 ans à rechercher son enfant, tout seul sur une île sans chercher à s'enfuir de l'île, en protégeant, en essayant de trouver.
Bah, tu disais que ça avait été pour toi quelque chose qui te permettait d'accéder à... Donc c'est les jeux vidéo. En quoi ça t'a apporté quelque chose pour les troubles 10?
Déjà, ça me laisse... vu que je suis... Comment expliquer? Je sais pas le nom de la dyslexie, mais je peux pas rester concentré dans quelque chose trop longtemps. J'y arrive pas.
Ça doit être un trouble de l'attention.
C'est ça. Ouais. Les jeux vidéo m'ont permis de rester plus longtemps concentré sur quelque chose. Si on reprend l'exemple où c'est que j'étais, ça m'a permis de passer des heures à essayer de réfléchir où c'est qu'il peut être, où c'est qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Même si c'est un jeu où c'est que dedans, vous pouvez construire votre propre maison pour vous protéger. Même pour ça, il faut savoir comment on fait.
Donc c'est un des avantages des jeux vidéo, alors que jusqu'à maintenant, on entend plutôt que les jeux vidéo créent outdoors, évidemment, des crises d'épilepsie ou d'autres troubles qui ne sont pas très intéressants à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres avantages des jeux vidéo?
En vrai, il y en a tellement d'avantages que je ne peux pas vous citer, mais il y en a plein. Imaginons, voilà... Je vous prends un exemple.
Et combien de temps tu passes sur un jeu vidéo?
Alors, tout dépend. Est-ce qu'on parle de quand? 21h, 22h. C'est pas forcément à cause des jeux vidéo que je reste aussi tard, mais je joue parce que ça me procure du plaisir, de l'intérêt, et tout ce qui va avec. Ça me permet de maintenir aussi une énergie, de sociabiliser et des informations. Parce qu'on parle de jeux vidéo en négatif, mais pour la lecture, il y a des jeux d'aventure où c'est qu'il faut que lire. Il parle pas. Moi, là-dessus, j'adore y jouer, mais même si je comprends pas trop l'histoire, j'essaie quand même des fois de lire pour comprendre. Si on parle des grands jeux comme Assassin's Creed, c'est un jeu où vous êtes retourné dans le passé, en 1900, on sait qu'il y a des châteaux et tout ça, et vous devez assassiner des gens. Mais certes, il y a des scènes monstres, mais il y a aussi une belle aventure, parce que le perso qui est là, il parle d'histoire, il parle de raconte, et tout ce qui est fait dans le jeu a un impact dans le jeu. Et aussi dans la réalité, parce que, vous allez apprendre à fabriquer un arc dans ce jeu. Et dans la vraie vie, vous allez dire, ah, mais attends, j'ai vu ça, on tire comme ça, on fait comme ça, on a un arc. Comment faire des flèches, comment faire des... plein de choses. Il y a aussi plein d'avantages. Autrement, si je prends les jeux de course de voiture, parce que j'ai entendu parler aussi comme quoi ça serait dangereux de relâcher des gens qui jouent aux jeux vidéo sur des courses. Alors, malheureusement, je vais vous dire une vérité, ça a déjà été fait l'expérience de mettre des vraies compétitions de joueurs qu'ils ont fait de la compétition sur les jeux de voiture, et après les mettre dans la vraie vie. Tout ça parce qu'ils avaient joué aux jeux vidéo, qu'ils connaissaient le terrain grâce aux jeux vidéo, qu'ils connaissaient les raccourcis, les petits trucs pour pouvoir passer plus rapidement et tout ce
qu'il y a. Oui, il y a eu un film qui a été fait avec ça.
Je crois.
Voilà, parce que c'est arrivé, donc
c'est arrivé,
d'être gagnant.
Alors qu'on part de zéro expérience quasiment.
Dans la voiture, oui.
Oui, comme quoi le virtuel peut avoir permettre de développer des aptitudes dans le concret. Toi, ça t'est arrivé, là, tu, par exemple, tu parlais de fabriquer un arc, des flèches, de transposer dans le réel ce que tu as découvert dans le virtuel?
Alors oui, ça m'est déjà arrivé, parce qu'en fait, je déménage beaucoup de fois, du coup, j'étais pas souvent ici à Digne. J'ai déménagé en Corse, en bas de la France, un peu partout, et du coup, souvent, je me retrouvais dans des endroits, c'est que j'avais qu'une maison et une forêt tout autour, et grâce aux vidéos et aux jeux vidéo, j'apprenais à faire des cabanes dans les arbres, tout ça grâce à des jeux vidéo. Si je reprends l'exemple d'Assassin's Creed, ça m'a appris à faire des mini couteaux pratiques pour pouvoir découper les branches, des trucs pour pouvoir poser des fondations sur un arbre qui n'est pas fait pour de base. Ça m'a appris aussi à faire des tyroliennes qui tiennent. Ça, c'est pratique, même à réparer. Pour l'exemple des menuisiers, ceux qui fabriquent le bois, il y en a, ils peuvent s'inspirer sur les jeux vidéo pour pouvoir faire leur création. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, vous pouvez passer, imaginons, vous créez un micro en bois, dans le jeu vidéo, pour faire en sorte que le jeu reproduise le temps réel qu'il va avoir pendant 10 années, 10 ans, en une minute. Ça pour voir comment sa création elle pourrit, comment sa truc elle passe, même pour des tables et tout ça. Alors, il y a aussi pas mal de trucs, style sur les jeux vidéo, qui est pratique pour la dyslexie, et aussi non pour la dyslexie, pour les gens normaux. C'est que, si je reprends mon exemple, si je joue à des jeux de guerre, on dit qu'on va être abruti et méchant. Est-ce que je suis méchant? Les gens qui deviennent méchants à cause des jeux de guerre, mais c'est juste que les gens ne sont pas faits pour de base de jouer aux jeux vidéo. Les vrais joueurs, comme on dit, ceux qui ne passent pas toute leur vie dessus, ne tombent pas dans l'addiction, ne se tuent pas dessus le jeu, n'essayent pas de faire du buzz. Parce que les gens qui s'énervent, on va dire, sur les jeux vidéo beaucoup, c'est les gens qui filment leur écran et qui font « Coucou, caméra !» pour pouvoir passer plus de vues, plus d'argent.
Oui, comme dans beaucoup de domaines, c'est une question de dosage. Quoi. Là, en l'occurrence, toi, tu n'es pas dans une pratique démesurée. Et je me demande un peu, tu parlais tout à l'heure dans les jeux où il y avait des aventures, des familles, des amis qui se créent en termes de sociabilisation.
J'ai 3 vrais amis. Parce qu'on va dire qu'au collège, quand vous êtes dyslexique et tout ça, que vous êtes un peu différent des autres, on essaie de vous mettre à part. Même, on voulait me mettre dans une classe spécialisée, mais moi j'ai refusé, je voulais pas du tout quitter ma classe, je voulais rester dans l'établissement, rester carré. Et on voit bien que ceux qui vont dans des classes où c'est que y a tout le monde qui sont 10 et tout ça, ils arrivent à socialiser, mais les gens qui sont hors classe 10, plus de mal parce qu'on est moins comprendre, on veut moins nous comprendre. C'est tout comme ça, même pour les papiers et tout ça, des fois j'ai besoin de ma mère pour pouvoir le lire. C'est une complication qui se règle, comme j'ai dit, c'est pas facile.
Tu es l'aîné ?
Je suis le dernier, oui.
Le dernier, le plus jeune, donc.
C'est ça.
Donc, par rapport au fait de comprendre que tu étais dyslexique, c'est quelque chose d'héréditaire ou est-ce que ça a été défini comme ça ?
Alors, il peut y avoir de l'héréditaire, mais aussi de l'aléatoire. C'est-à-dire que là, conséquence de cause, il y a un peu de l'héréditaire pour moi, parce que ma mère est dyslexique, mon père est normal, et que quasiment tous mes frères et sœurs sont dyslexiques. Mais ils n'ont pas été touchés par autant de dyslexie que moi. C'est-à-dire que ma mère, elle est juste dyslexique, et certains de mes frères sont dysphasiques, diphoniques, et que moi, j'ai eu vraiment toutes les dyslexies.
Donc ils s'en sont aperçus
très rapidement.
Parce que c'est ça qui a fait que tu n'as pas parlé jusqu'à l'âge de 6 ans ?
C'est ça. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais dans l'impossibilité de parler français. C'est pour ça que j'ai débloqué, on va dire, une nouvelle compétence que pas beaucoup de monde veut apprendre. Pourtant, c'est bien important d'apprendre la langue des signes parce que ça commence vraiment à faire beaucoup de gens qui commencent à devenir aveugles, muets. Mmh. Et c'est bien de pouvoir communiquer avec eux parce qu'ils peuvent vous raconter des fois des trucs très intéressants. Mais que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il n'y a pas un orateur, et tout ça, qu'ils sont obligés d'écrire, même si vous ne pouvez pas.
Mais tu ne pouvais pas parler, ou tu as commencé à parler à 6 ans ?
Alors oui, j'ai commencé à parler à 6 ans. C'est-à-dire que à 6 ans, j'étais quasiment en CM1, je crois, ou en CM2. Et j'ai commencé à parler comme un enfant de CP, même un peu moins.
Mais est-ce que c'est parce que tu n'entendais pas bien ?
Alors non, j'entendais très bien lorsque je répondais en langage des signes. Mais le problème, c'est que... Comment dire ? J'avais pas la petite voix dans la tête qui permettait de réfléchir et dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Même à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas lire dans ma tête. C'est-à-dire que si je dois lire, c'est à voix haute parce que je m'entends pas dans ma tête. Parce que je sais pas si vous avez déjà fait, quand vous lisez, vous entendez dans votre tête, mais pas, vous avez pas besoin de le dire à voix haute pour comprendre. Mm-hmm. Et moi, si je prends l'exemple du mot qui est devant moi, je suis obligé de le lire à voix haute parce que je peux pas le lire dans ma tête. Mm-hmm. Et ça, c'est une complication parce que on essaye de lire quelque chose. Même si c'est quelque chose de discret ou d'indiscret, on est obligé de s'exprimer à voix haute. On ne peut pas s'exprimer à l'intérieur pour cacher. Et la parole, c'est venu, on va dire. J'ai réussi à refaire des sons, des syllabes petit à petit. Mais sinon, non, ça c'est pas apparu, on va dire comme ça, les blocages. C'est des efforts que j'ai fournis pour qu'on me comprenne. Enfin, c'est pour parler aux autres, pour parler à ma mère, parler à mon père, tout ce qui va avec.
Est-ce qu'eux aussi ont appris la langue des signes, du coup, toute la famille ?
Alors, pas toute la famille, il n'y a que ma mère qui a appris la langue des signes pour me comprendre. Et sinon, non, les autres frères ne me comprenaient pas vraiment, ils n'ont pas appris la langue des signes. Il n'y a que ma mère qui la connaît avec moi. Je dois encore avoir le manuel des signes à la maison. Je le regarde de temps en temps parce que c'est toujours intéressant de toujours maintenir la connaissance qu'on connaît. Et la langue française, j'ai pas besoin de la réapprendre vraiment, parce que je la parle tous les jours maintenant, du coup. Mm-hmm. Bon, sinon, c'est compliqué. Comme certains mots, vous allez m'entendre bégayer, ça fait partie de la dyslexie. Et même des fois, je bégaye parce que je connais pas vraiment le mot et que j'essaie d'en sortir un qui est à peu près pareil. Et voilà.
Donc c'est un mélange des lettres, le D à la place du B ou des choses comme ça.
Alors, le B et le D, c'est l'exprimant qu'on dit le plus souvent. Oui, ça m'arrive de les inverser. C'est-à-dire que des fois, je vais lire des mots, alors que ce serait des mots. Comme le J et J, Personnellement, je ne fais toujours pas la différence entre les deux. Je sais juste qu'il y en a un qui a un cercle et l'autre qui c'est par en bas. Après, il y a le P et le Q. Quand on les écrit en majuscules, ça passe. Et encore, j'arrive pas à savoir quand il faut les mettre. Mais quand on les écrit en minuscules, je ne sais pas faire trop la différence. Pour moi, ils sont quasiment identiques. Comme le... Je crois que c'est le A et le O, c'est pareil. Ça. Pour moi, je les inverse des fois. Genre pour oiseau, ça m'est déjà écrit de marquer A, O, U. Non, c'est A... Je sais plus comment l'écrire.
Ouais.
Voilà. Même pour les mots, je suis obligé de me les dire à voix haute pour que je l'écrive ou que je l'essaie de le lire. C'est pareil. Par contre, je vous dis oiseau comme ça, mais par contre, je ne serais pas à trop vous l'épeler.
Bah ça, c'est la... Là, on parle pas mal de la dyslexie et dans les autres troubles 10, on a évoqué peut-être la dyspraxie aussi. Donc là, ça concerne plus la coordination. Est-ce que tu veux en parler un peu aussi?
Alors, la coordination, c'est-à-dire les membres qui bougent tout seuls. Oh, oui, ça m'est arrivé. Ben, là, quand je parle, des fois, je ne veux pas faire bouger les mains, mais ils bougent tout seuls, comme pareil pour ma jambe qui tremblote tout seul. Quand j'essaie de me concentrer pour dire quelque chose ou pour éviter de me distraire, ben, j'ai le corps qui se met à bouger tout seul assez souvent, genre les jambes qui tremblent, les pieds qui passent droite-gauche. Des fois, même avec les mains, je fais passer mon téléphone de droite à gauche sans l'avoir allumé parce que ben, il faut juste quelque chose en main pour que j'essaie de rester concentré. Et aussi, c'est pour ça que des fois, j'ai besoin d'appuyer sur la jambe pour essayer de l'arrêter parce que j'arrive pas à l'arrêter manuellement. Parce qu'une fois que c'est lancé, c'est lancé. Voilà, c'est... Ça arrive aussi souvent pour ceux qui font, imaginons, qui sortent de la guerre. Ça arrive que leurs mains bougent tout seuls ou leur tic, mais ça, c'est un tic nerveux. Ça arrive parce qu'ils ont eu des expériences mauvaises. Moi, c'est juste naturel, ça arrive tout seul. Voilà. Après, il y a plein d'autres dyslexies. On en parle de dyslexie, mais il y a aussi des dyslexies qui sont, on va dire, combinées. C'est-à-dire que la diphonie, problème de ne pas pouvoir parler, mal s'exprimer. De base, c'est deux dyslexies différentes, mais assez souvent, quand il y en a une, il y a l'autre aussi. Genre la dyslexie et il y a la diphonie, c'est-à-dire pas pouvoir lire et pas pouvoir s'exprimer. Parce que vu qu'on ne sait pas lire, on galère à s'exprimer. Ça, ensemble. C'est pour ça que des fois, il y en a qui disent « oui, j'ai que la dyslexie ». Et finalement, quand ils parlent, on comprend qu'il n'y a pas que la dyslexie. Comme le cheveu qu'il y a sur les langues, à ce moment qu'on dit. Mais des fois, non, ce n'est pas un cheveu, c'est de la dyslexie.
Aaron, donc, merci de ce témoignage. Bon, on n'a pas fini de te poser des questions. Tout à l'heure, quand je t'entendais parler des jeux vidéo, je me disais, mais tu as un métier tout trouvé, là. Tu vas faire la promotion de certains jeux vidéo. Et si tu as choisi la radio aujourd'hui en stage, c'est pour...
Parce que ça me plaît bien, surtout qu'on parle avec des gens, on peut s'exprimer librement, on est tranquille, on ne prend pas trop de pression non plus. Et surtout que moi, ça m'intéresse de faire des métiers parlés. Moi, ça me permet de résoudre mes dyslexies en temps de m'exprimer. Je vais dire que la radio, ça a été plus sur le coup. C'est-à-dire que j'en avais jamais fait et faire le micro-trottoir que j'ai réalisé avec votre équipe m'a fait dire « Ah, mais j'aime bien !» Vas-y, je vais demander si c'est possible de faire venir, faire un petit stage. Là, j'ai demandé savoir si je pouvais faire une prolongation du stage.
Prolongation, oui.
C'est-à-dire savoir si la prochaine fois, je pourrais revenir en stage ici. C'est parce que là, j'en ai déjà deux autres qui sont prévus, mais moi, forcé à aller en chercher. Parce qu'on ne voulait pas que j'attende savoir si je pouvais prolonger ou pas.
Voilà. Donc, dans la radio, ce qui te plaît, c'est de pouvoir parler. Et apparemment, on peut dire aujourd'hui que tu t'exprimes plutôt bien par rapport à ce handicap... qui te gâche un peu la vie, on va dire que l'exercice est plutôt bien, parce que c'est en direct.
Oui, d'ailleurs, à quel point est-ce que ça te gâche la vie? Est-ce que t'as des situations compliquées, ou notamment des situations de discrimination qui se sont présentées, enfin, si c'est OK d'en parler?
Oui, non.
Et est-ce qu'à l'inverse, t'as découvert des forces, des qualités insoupçonnées que ça t'aurait permis de développer?
Alors oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes sur la dyslexie et des gens qui sont essayés de me moquer, mais on va dire que moi j'ai réussi à faire abstraction des choses. J'avais ma mère qui me disait le regard des autres, tu te moques, c'est vraiment ton regard qui compte, et j'ai réussi à me concentrer sur ça. Oui, ça m'est déjà arrivé d'être décrimisé en cours en disant regardez c'est pas lié, tatatitatata, ça m'est déjà arrivé. Alors par contre, la dyslexie fait en sorte que on trouve d'autres moyens de réfléchir aux choses. C'est-à-dire, imaginons, vous allez prendre un téléphone, ça vous est déjà arrivé de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone, comme matériaux, utilisation, programme, logiciel et tout ce qui va avec.
C'est vrai que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on a un téléphone entre les mains.
Voilà. Même au niveau, on va dire, des maths, la table de 9, je sais pas si tout le monde connaît la méthode, mais si vous mettez vos mains devant et que vous baissez le premier doigt, ça fait 9 fois 1. Et là, vous avez 9. Si vous baissez le deuxième, là, on compte en dixième. Et là, du coup, 10, ça fait 18. Pareil pour quand on l'écrit, la table de 9, on part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, on fait l'inverse. 9, 0, et ça donne le résultat pile.
Oui, t'as des astuces en fait visuelles qui peuvent être utiles à tout le monde.
C'est ça.
Pas uniquement. Ouais.
Après, j'ai des trucs qui sont pour moi dans ma tête, mais que cela, je n'arriverai pas trop à exprimer. Même des fois, vous allez me poser une question, je vais être là comme ça, en train de réfléchir. Et après, pouvoir répondre. C'est parce que j'essaye de trouver une réponse qui va, et pas une réponse que je vais dire sur le tac au tac. Et surtout, qu'on essaie de réfléchir à ce qu'on dit. Parce que, on peut préméditer qu'est-ce qui va être dit. On a aussi, on va dire, la dyslexie. L'avantage, c'est qu'on arrive à calculer plus de cours en avance. Ça veut dire que, moi, j'ai joué beaucoup aux échecs et je gagnais grâce à la dyslexie. Parce qu'en fait, je calculais les coups que l'adversaire allait faire. C'est-à-dire, s'il jouait en E9, je jouais en 8-7. Ça me permettait de calculer les coups qu'il fallait que je fasse pour pouvoir le gagner et les coups qu'il pouvait faire pour pouvoir essayer de me renverser et combattre. Et c'est comme ça que j'arrivais à passer en soum-soum pour gagner. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. Ça développe la mémoire, les visuels et tout ce qui va avec.
Donc il y a des avantages, heureusement.
Heureusement. S'il n'y avait que des inconvénients...
Bah oui, c'est important d'en parler, de pas non plus stigmatiser, mettre ça dans une...
case.
Une case non problématique, mais au contraire aussi... de montrer les avantages qu'il peut y avoir. Est-ce que tu aurais envie de faire passer un message en particulier d'ailleurs?
Il ne faut pas abandonner quand on a la dyslexie, il faut toujours croire. De toute façon, si on ne trouve pas un problème la lecture, il y a toujours des moyens de faire autrement pour lire. Si vous avez un téléphone, vous allez sur, si vous allez sur téléphone, sur la barre de recherche Google, vous avez un truc pour prendre une photo. Et sur ça, vous pouvez lire. C'est quand vous prenez une photo, c'est qu'il y a de l'écriture, ça vous le lit. Si vous avez besoin d'informations que Google vous ne donne pas, vous allez sur ChatGPT, sur autre chose. Ça permet de passer pour comprendre. Si vous avez besoin de questions plus spécifiques, c'est médical, vous appelez directement, vous prenez rendez-vous. Si. Mais ne restez pas coincé sur je sais pas lire, hein, tant pis. Non, c'est je sais pas lire, d'accord. Je vais essayer de trouver des solutions à mon problème. Ça veut dire lire un petit bouquin, aller à la bibliothèque, sortir un peu plus, ou lire sur les jeux vidéo, faire plus de trucs. Mais toujours essayer de raccorder, forcer pour que ça passe. Que plus vous allez, c'est un muscle le cerveau, c'est un muscle, et la parole aussi. Si on les muscle pas, ça pourrit. C'est pour ça qu'il faut toujours pratiquer plusieurs fois, plusieurs mois, et ça passe. Ça reviendra, après ça deviendra naturel, comme le clignement des yeux. Le cerveau fait 7 trucs à la fois, cligne des yeux, parle, réfléchit, respire et salive.
Aaron, est-ce que tu veux nous parler de l'école de la deuxième chance, puisque tu y es depuis peu?
Alors, j'y suis depuis octobre du mois dernier.
Ouais.
Donc,
octobre 2024.
Ouais.
C'est ça. J'y suis là-bas, c'est bien. Il n'y a pas de, on va dire, de discrimination au niveau de la lecture et tout ce qui va avec. Je suis allé là-bas parce que je suis en recherche de travail et surtout parce que je ne veux pas aller au lycée, parce que j'ai eu un décollage scolaire, on va dire. C'est les gens qui ne veulent plus aller en cours et tout ce qui va avec, parce que soit ils ont été harcelés, soit ils ont été moqués, soit ils n'ont plus assez de résultats pour passer. Si je prends sur l'exemple, mon exemple, c'est que moi, tout ce qui est passé oral, c'est passé. Si j'ai pas eu mon brevet, c'est à cause de l'écriture. Le jour de l'écriture, c'était tellement pas lisible qu'on m'a dit qu'on m'a comparé à des chiffres romains. Du coup, c'était pas possible que je passe au reste. C'est pour ça que je suis parti à l'école de la deuxième chance, et surtout parce que j'en avais marre du système scolaire qui est pour moi trop vieux.
Donc ton objectif avec l'école de la deuxième chance, sur quoi tu travailles, il y a des ateliers, il y a des cours spéciaux, qu'est-ce qui s'y passe?
Alors il y a des ateliers, tous les vendredis on est en sortie ou quelque chose d'amusant pour nous détendre. Bon sinon tous les jours il y a des petits cours personnalisés, style sur des petits maths et des petits trucs quand même, pour qu'on continue à progresser et on s'adapte. En fait, il s'adapte à notre level, notre niveau d'apprentissage.
C'est bien. Tu parles anglais en même temps.
Oui, alors ça, c'est à cause des jeux vidéo, grâce aux jeux vidéo. Cause ou grâce, c'est pareil. C'est juste une expression qu'on utilise. Si on dit cause, là, souvent, c'est négatif, alors que grâce, c'est positif, mais ça peut être aussi l'inverse.
C'est bien d'en être conscient.
Et les jeux vidéo aussi, on va dire que les jeux vidéo, c'est social aussi, comme le dossier. Qu'est-ce qui est bien avec le dossier, c'est que vous pouvez socialiser avec les gens.